Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Votre douleur est aussi ma douleur, ce sont les mots du pape François au peuple ukrainien dans une lettre rendue publique vendredi où le souverain pontife exprime sa tristesse et sa proximité avec la population ukrainienne. Nous y reviendrons en détail après les titres. Soyez des piliers de stabilité, de paix et d'unité et des instruments de réconciliation entre les communautés. L'invitation de l'archevêque de Djouba au Soudan du Sud, Mgr Stephen Ameyou Martin, au peuple sud-soudanais qui souffre encore les affres de la guerre. Une tentative de coup d'État a échoué à Sao Tomé et Principe. Le premier ministre de l'île du Golfe de Guinée a tenu à rassurer la population. Le reste de l'actualité sociopolitique africaine nous conduit au Mali, au Nigeria et en République démocratique du Congo, entre autres. Dans cette édition également, un retour sur l'actualité internationale de la semaine. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite dans ce programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France-Afrique, Christian Combé.
Votre douleur est aussi ma douleur, ce sont les paroles du pape François au peuple ukrainien dans une lettre rendue publique vendredi. Le souverain pontife y exprime sa tristesse et sa proximité avec la population qu'il qualifie de noble et martyr. Le Saint-Père y exprime également son angoisse pour tous les enfants tués. En chacun d'eux, l'humanité entière est vaincue. Dans la croix de Jésus, je vous vois, vous qui souffrez de la terreur déchaînée par cette agression, a déclaré le pape s'adressant aux femmes, aux veuves et aux victimes de la violence, aux jeunes soldats, aux volontaires, aux prêtres. François conclut sa lettre en confiant le peuple ukrainien, ses souffrances et ses larmes à la Vierge Marie. Le Saint-Père a adressé vendredi un message vidéo aux participants de la 12e édition du festival sur la doctrine sociale de l'Église qui s'est ouvert jeudi soir à Vérone, dans le nord de la péninsule italienne. Revenant sur le thème de cette année, construire la confiance, la passion de la rencontre, François les a invités à promouvoir et à entretenir cette culture de la rencontre et de la confiance, seul moyen de sortir de la logique de la guerre qui voit dans l'autre l'ennemi, la menace, l'usurpateur. L'événement se poursuivra jusqu'à dimanche avec 25 panels et plus de 100 intervenants sur plusieurs thèmes clés dont le travail, l'entrepreneuriat social, les jeunes, le renforcement de la démocratie entre autres. Direction l'Église Famille de Dieu en Afrique. Le rôle et la mission des parents dans l'éducation de leurs enfants préoccupent les acteurs du secteur de l'enseignement catholique au Cameroun. Ils se sont retrouvés au siège de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun en vol lié à Yaoundé les 23 et 24 novembre 2022 dans le cadre des travaux de la 31e Assemblée générale annuelle de l'Organisation nationale de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement catholique. Le thème de cette année porte sur l'autonomie de l'école catholique, perspective dans la préservation de son identité et de la gestion de ses parties prenantes. Le compte-rendu de Paul-Valéry Mendogo.
Les membres du bureau exécutif de l'Organisation nationale de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement catholique au Cameroun ne cessent d'inviter à une éducation intégrale qui nécessite la contribution des parents, premiers éducateurs. Wilfried Donatien Tolo est le président de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement catholique au Cameroun.
Il est question pour l'école catholique de pouvoir faire en sorte que les parents jouent véritablement leur rôle. Donc, cette assemblée générale a une double finalité, une finalité évaluative, évaluer ce que font les parents au niveau des diocèses pour accompagner l'école catholique, former les parents pour qu'ils soient effectivement ces partis qui portent l'école catholique, qui accompagnent l'Église pour cette formation humaine intégrale de nos enfants, de nos élèves et de l'homme, de tout l'homme en général.
Deux jours d'atelier ont rassemblé tous les secrétaires diocésains à l'éducation venant des 26 diocèses que compte le Cameroun, des personnes ressources et des délégués des parents d'élèves pour un partage d'expériences et l'acquisition des outils permettant d'impliquer plus concrètement les parents dans l'éducation de leurs enfants. Cette assemblée générale a aussi été l'occasion pour les participants de réfléchir à une meilleure gestion des fonds dans un contexte de baisse drastique du montant des subventions de l'État. Paul-Valéry Mendogo, DDA, pour Radio Vatican.
Le diocèse de Dapaan, au Togo, a abrité mercredi et jeudi un dialogue intercommunautaire entre les cantons de Luanga et de Corbongou dans la préfecture de Ton. Une initiative du Conseil épiscopal Justice et Paix de Dapaan. Les précisions de Gustave Wam.
C'est 24 et 25 novembre 2022, au centre pastoral Monseigneur Henrion de Dapaon, s'est tenu un dialogue intercommunautaire entre les cantons de Luanga et de Corbongo, deux cantons de la préfecture de Thône dans la région des Savanes, correspondant géographiquement au diocèse de Dapaon. En effet, ces deux communautés vivent un conflit foncier depuis une vingtaine d'années, avec des affrontements violents qui les empêchent d'interagir pour le développement de leur commune et contrer la menace sécuritaire. Afin d'amener ces communautés à transcender leurs problèmes et instaurer le vivre ensemble pacifique, le Conseil épiscopal Justice et Paix de Dapaon, avec l'appui financier et technique de l'Agence des États-Unis pour le développement international, a initié un dialogue intercommunautaire entre ces cantons, à l'issue duquel un mémorandum a été élaboré ce 25 novembre 2022 par les deux chefs cantons de Luanga et de Corbongo, en présence des leaders des groupes sociaux de chaque canton, du maire de la commune de Thône 4, du préfet de Thône, de Mgr Dominique Gribil, président du Conseil épiscopal Justice et Paix, et d'autres témoins et garants. Pour le préfet de Thône et le maire de la commune Thône 4, c'est une épine que le Conseil épiscopal Justice et Paix, avec l'aide des partenaires, a enlevée de leurs pieds. Une épine qui les empêchait depuis des années de bien marcher. Gustave Wam, Dapaon pour Radio Vatican.
L'archevêque de Juba au Soudan du Sud, Mgr Stéphane Ameyou Martin, a appelé à promouvoir la paix et l'unité dans le Sud-Soudan, où la guerre civile qui dure depuis des années continue à causer la mort de milliers de personnes, le déplacement de plusieurs zones et la destruction des infrastructures. L'occasion a été une messe d'action de grâce célébrée le 21 novembre dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour le centenaire du diocèse de Torit, dont il est également administrateur apostolique. Soyez des piliers de stabilité, de paix et d'unité dans vos communautés et travaillez pour le bien de votre peuple, a déclaré l'archevêque. Mgr Ameyou Martin a invité en particulier les membres du clergé à être des instruments de réconciliation entre les communautés pour une paix durable. Cap à présent sur le Bénin. La pastorale oratoire du cardinal Bernardin Gantine pour la spiritualité et la synodalité au Bénin s'est tenue le mois dernier à Cotonou. Le père Brice Ouinsou, professeur d'anthropologie théologique à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Cotonou et chargé des activités de la chaire cardinal Gantine, revient sur le triple intérêt de cette pastorale oratoire voulue par le défunt cardinal béninois.
L'intérêt pastoral est à trois niveaux. Pour la société béninoise, pour l'Église au Bénin et pour l'Église universelle actuellement en marche synodale. Pour la société béninoise, l'intérêt est caractérisé par la rencontre, le dialogue et surtout dans une société de diversité de cultes et de visions. Même les musulmans ont participé à la construction de ce petit bâtiment qui sert de pierre. Donc pour cette société multiforme, une société marquée par l'histoire et la peur, aujourd'hui, on a besoin d'une pastorale de la prière qui, en même temps, permet à la société béninoise de cultiver l'espérance, de cultiver l'avenir, la fraternité, la justice et le travail selon la devise du pays. Il s'agit donc de cultiver une fraternité, de vivre ensemble, enracinée dans l'Emmanuel, Dieu avec nous dans l'histoire.
Le deuxième intérêt?
Le deuxième intérêt est au niveau de la vie de l'Église au Bénin. C'est au niveau de la réception historique de l'évangélisation au Bénin par les missionnaires et par nous aujourd'hui. Nous venons juste de célébrer le 60e anniversaire du Concile Vatican II. L'oratoire reprend tout le concile en termes de prière, en termes de spiritualité. Donc comment insérer la spiritualité conciliaire, la spiritualité du concile dans le vécu des personnes en Église au Bénin? Et cette spiritualité va permettre de comprendre qui est le chrétien, qui est l'humain, qui est le croyant et comment harmoniser toutes ces dimensions de la personne humaine et du croyant. Et le troisième intérêt, c'est au niveau de l'Église universelle, au niveau de la synodalité. Vous voyez, on ouvre l'oratoire cette année. Nous venons de déposer la phase consultative du synode sur la synodalité. Et l'un des points qui est sorti de cette phase préparatoire est que nous avons besoin d'un esprit nouveau, pour éclairer le peuple et pour vivre ensemble entre pasteurs et peuple, entre les gouvernants. Donc, l'idée de la synodalité est au fond de cet oratoire que, d'ailleurs, l'archevêque de Cotonou a pris en main. Il vise donc à faire des pierres vivantes pour la nouvelle évangélisation.
C'était le père Brinson-Assou, professeur d'anthropologie théologique à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Cotonou et chargé des activités de la chaire Cardinal Gantine, interrogé par Françoise Niamia. Passons à présent à notre page sur l'actualité sociopolitique africaine que nous ouvrons avec le Sao Tomé et Principe. Une tentative de coup d'État a échoué dans la nuit de jeudi à vendredi dans le pays insulaire du Golfe de Guinée, considéré comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique. La tentative de coup d'État a débuté autour de minuit 40 et s'est terminée peu après 6h du matin, a indiqué le Premier ministre Patrice Trovoada. Les auteurs qui ont tenté d'attaquer le quartier général de l'armée ont été arrêtés, a précisé M. Trovoada, qui a tenu à rassurer les Saint-Toméens. Le chef de l'État malien a reçu vendredi Choguel Kokala Maïga, qui lui a dit être apte à reprendre son poste de Premier ministre après 3 mois d'absence pour raison de santé, selon une vidéo diffusée par la présidence. Aucune information n'a été publiée sur la réponse du colonel Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga, 64 ans, avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en août et avait été hospitalisé. Le colonel Goïta avait désigné quelques jours plus tard le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement, pour assurer l'intérim. Le gouvernement du Soudan du Sud a suspendu sa participation aux discussions de paix de Rome avec des groupes rebelles qui l'accusent d'utiliser ce processus pour gagner du temps et se préparer à la guerre. Le ministre des Affaires étrangères Barnaba Marial Benjamin a informé la communauté catholique Sant'Egidio qui assure la médiation de la décision du gouvernement dans une lettre datée du 21 novembre et publiée vendredi. La police nigériane a annoncé vendredi que des hommes armés ont tué 3 escortes de police et enlevé le directeur d'une entreprise pétrolière nigériane dans la zone de Rumokoro à Port Harcourt, capitale de l'état de Rivers et capitale pétrolière du Nigeria. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque. Direction la République démocratique du Congo. Un porte-parole du M23 a estimé jeudi soir que le mouvement rebelle à l'offensive dans l'est du pays n'était pas vraiment concerné par l'accord de cesser le feu annoncé la veille à Luanda, en Angola, et a réclamé un dialogue direct avec le gouvernement congolais qui l'a de nouveau rejeté. Le mouvement du 23 mars, composé d'anciens rebelles Tutsi, est soupçonné par le Congo ainsi que par les Nations Unies d'être soutenu par le Rwanda. Alors que des discussions entre les différentes parties doivent avoir lieu sous l'égide de l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, les affrontements opposant forces loyalistes et rebelles dans la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, ont provoqué un déplacement massif de la population. La correspondance à Goma de Paul Lorgéry.
C'était à partir de 6h, il y avait eu des coups de balles au quartier et puis tout le monde avait pris fuite. Et ceux qui se trouvent là, ce sont eux qui avaient pris fuite.
Shadrach Maliamungu est arrivé le jeudi 26 octobre sur le site de déplacés de Kayembe, à la sortie de la ville de Goma. Lui, comme près de 188 000 autres personnes, ont fui les combats entre l'armée congolaise et les éléments du mouvement du 23 mars, le M23. Un groupe rebelle créé en 2012 qui, il y a 10 ans jour pour jour, prenait déjà la ville de Goma. Un souvenir que Angelina Kazindou, originaire de la commune de Rugari, à 70 km de là, a préféré fuir.
En 2012, mon mari a été tué par des éléments du M23. Alors que les coups de feu retentissaient dans la ville et que la plupart des gens avaient fui, nous nous étions réfugiés dans notre maison. Ils sont entrés et lui ont tiré dessus.
Le M23, principalement composé d'anciens rebelles Tutsi, avait, à l'époque, été réduit au silence. Réfugiés dans des camps en Ouganda et au Rwanda, ses membres ont aujourd'hui repris du poil de la bête et se présentent comme des protecteurs des droits de l'homme. Ce que réfute Elisa Yaoussa, volontaire au sein de l'association locale Goma Actif, qui vient en aide aux déplacés sur le site.
Je crois qu'on ne protège pas la population en se battant avec les forces loyalistes. Il y a des gens qui sont en train d'être tués, les militaires, d'un côté comme de l'autre côté. Il y a des obus qui sont lancés sur des maisons des civils.
Selon un rapport confidentiel des experts des Nations Unies qui avait fuité en juillet, l'armée rwandaise serait derrière la résurgence du groupe rebelle qui se cantonne au Nord Kivu, une province marquée par 30 années de guerre et largement connue pour ses différentes ressources minières. Paul Lorgéry à Goma pour Radio Vatican.
Donnons la parole à présent à Stanislas Kambashi pour le magazine sur l'actualité internationale de la semaine.
Voici quelques brèves qui ont marqué l'actualité internationale cette semaine. L'Azerbaïdjan a annoncé vendredi avoir annulé des pourparlers de paix prévus à Bruxelles avec l'Arménie parce que cette dernière insistait pour que le président français Emmanuel Macron y assiste. Les relations entre ces deux pays voisins du Caucase sont empoisonnées depuis plus de 30 ans par des disputes territoriales ayant mené à deux guerres, au lourd bilan des dizaines de milliers de morts dans lesquels l'Azerbaïdjan accuse la France de manquer de neutralité en soutenant l'Arménie. Paris et Dublin ont conclu vendredi un accord pour lancer la future interconnexion électrique Celtic Interconnector qui permettra de raccorder les réseaux irlandais au continent européen à l'horizon 2026, a annoncé le ministère français de la Transition énergétique. Cette liaison sous-marine haute tension de 700 MW reliera les côtes sud de l'Irlande au nord de la France en parcourant 575 km, ce qui permettra l'échange direct d'électricité et notamment à l'Irlande d'exporter de l'électricité produite par des éoliennes offshore. Le confinement sanitaire de 6 millions de personnes a débuté vendredi dans une ville du centre de la Chine où se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde après des violents affrontements entre salariés et police sur les salaires. Il doit durer au moins 5 jours. Les précisions de Stéphane Pambrun depuis Pékin.
Troisième jour de manifestation à l'usine Foxconn de Zhangzhou, selon des vidéos partagées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. De nouveaux affrontements violents ont eu lieu entre les ouvriers et la police. Plusieurs milliers de personnes, selon certains témoignages qui n'ont pas été confirmés officiellement. De nombreux employés de l'usine Foxconn, qui fabrique notamment les iPhones d'Apple, ont quitté jeudi l'usine en échange de primes allant jusqu'à 1 340 €. Ils se plaignaient de leurs mauvaises conditions de travail. Dans le même temps, les autorités ont ordonné aux résidents de 8 districts de Zhangzhou de ne pas quitter la zone pour les 5 prochains jours, soit 6 millions de personnes confinées. Des barricades ont été installées autour des immeubles résidentiels considérés comme à haut risque et des points de contrôle des déplacements ont été établis dans les rues. Officiellement, il s'agit de lutter contre l'épidémie de Covid-19, mais seuls quelques cas de Covid ont été recensés dans cette région. Stéphane Pambrun à Pékin pour Radio Vatican.
L'Ukraine, notamment sa capitale Kiev, était largement privée d'électricité et d'eau jeudi, au lendemain des nouvelles frappes russes massives qui ont spécifiquement visé les infrastructures énergétiques, une stratégie qualifiée de crime de guerre par les alliés occidentaux au moment où l'hiver s'installe. Réuni d'urgence, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé jeudi, malgré l'opposition des Téhéran et des Pékin, d'ouvrir une enquête internationale sur la répression des manifestations en Iran après la mort de Mahsa Amini pour rassembler des preuves des violations et éventuellement poursuivre les responsables. Pour sa part, l'Iran a totalement rejeté cette résolution. Le texte présenté par l'Allemagne et l'Islande a été adopté jeudi par 25 oui, 6 non et 16 abstentions lors d'une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme à Genève. Mobilisant des hélicoptères et des milliers de sauveteurs, les autorités en Indonésie ont tenté jeudi de localiser des dizaines de disparus 3 jours après les séismes et alors que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Le bilan du tremblement de terre qui a frappé lundi l'île de Java en Indonésie est monté à 310 morts, a annoncé vendredi l'agence nationale chargée de répondre au désastre. Le Suriname a estimé qu'il fallait plus de coopération entre les États de la région pour obtenir une meilleure coopération. C'était jeudi, lors de la deuxième édition du dialogue stratégique du plateau de Guyane, qui a réuni à Paramaribo, Suriname, Guyane et France, ainsi que le Brésil en observateur. La Turquie a continué mercredi de viser des positions des combattants kurdes dans le nord de la Syrie, se disant plus déterminée que jamais à protéger sa frontière méridionale. Bagdad avait annoncé mercredi que les autorités fédérales travaillaient à un redéploiement des gardes frontières irakiens le long de la frontière avec l'Iran et la Turquie, après des bombardements répétés des deux pays contre des groupes armés d'opposition kurdes iraniens et turcs au Kurdistan irakien. Les représentants du gouvernement colombien et de l'ELN, dernière guérilla encore active dans le pays, se sont montrés optimistes lors de la reprise lundi à Caracas des pourparlers de paix, promettant de construire la paix. Le Qatar a annoncé lundi un accord d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié avec la Chine sur 27 ans, affirmant qu'il s'agissait de la plus longue durée jamais vue dans cette industrie, en pleine crise mondiale de l'énergie provoquée par les conflits en Ukraine.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Combé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.